Journal du Midi. Junior Cardin.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire, le nouveau siège inauguré hier au Ghana en présence du Premier ministre ivoirien Robert Beugré-Mambé, satisfait de la collaboration des deux pays dans ce domaine. Burundi, une journaliste poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous aurons également dans ce journal un dossier d'actualité sur le Maasai. Et puis le dernier volet sera notre invité de la rédaction, Dr Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP, qui estime que Charles Blegoudé est oublié par le chef de l'État ivoirien dans le processus de réconciliation. Bienvenue à toutes et à tous. Filière cacao, l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire se renforce avec l'inauguration à Accra, au Ghana, d'un nouveau siège de cette structure. Présent au nom du chef de l'État ivoirien, le Premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est réjoui des résultats obtenus grâce à la conjonction d'actions entre ces deux pays voisins qui représentent plus de 60% de la production mondiale. Écoutons donc cet extrait de ses propos.
6 années de franche collaboration et de persévérance se sont écoulées depuis la déclaration d'Abidjan et les faits donnent aujourd'hui raison à nos deux chefs d'État d'avoir pris la décision de réaliser ce beau rêve. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacaoyère est en cours. Les producteurs de cacao de leur pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose progressivement comme le nouvel horizon pour une cacao culture durable. Je suis fermement convaincu que des avancées significatives futures seront réalisées dans ce domaine à travers l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana, qui est aujourd'hui une institution qui est écoutée et reconnue par tous les acteurs du secteur.
Robert Beugré-Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire depuis le Ghana. Et à sa suite, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, rappelant le contexte de la mise sur pied de cette initiative, Cacao Ghana Côte d'Ivoire a fait remarquer comme acquis l'obtention du DRD, le différentiel de revenus décent de $400 la tonne, qui permet d'améliorer un tant soit peu les revenus des producteurs des deux pays. Nous l'écoutons dans des propos traduits en français par Jean-Claude Comé.
In 2018, President Ouattara and I, pursuant to the strategic initiative, committed.
En 2018, le président Ouattara et moi, conscients de la nécessité d'agir ensemble pour le renforcement de la chaîne de valeur du cacao, avons instruit nos deux gouvernements, dans l'esprit de l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire, de collaborer pour la recherche de solutions pour une meilleure rémunération des producteurs des deux pays. Je suis aujourd'hui fier des résultats obtenus à travers cette initiative qui a permis, en 2019, après une importante réunion à Accra, d'obtenir la fixation du DRD de $400 américains la tonne pour toute vente des productions de cacao des deux pays. Une décision effective depuis la saison cacaoyère 2021.
On the world market price, every cocoa sold by the Tunis effective from the 2021 season.
Autre chose à présent, désormais les recettes générées par les différents services publics de l'État, dites recettes de services, vont devenir des recettes fiscales en bonne et due forme. Ainsi, en a décidé le dernier Conseil des ministres dans son point fait par le porte-parole du gouvernement. Là-dessus, écoutons les explications du président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté, Dr Christophe Kouamé, joint par Francis Cassé.
Les recettes des services sont de plusieurs ordres. Il nous a été annoncé que celui émanant des concours sera le premier qui va être fiscalisé. Donc, dorénavant, l'État, recherchant à augmenter son budget, surtout à travers les recettes fiscales internes, va regarder à la loupe tout ce qui est recettes de services et le ramener dans le budget à travers la loi fiscale.
Donc, est-ce à dire que les ministères percevaient cet argent en plus du budget dont ils sont dotés?
Cet argent, jusqu'à ce jour, nous ne savions pas à quoi il était utilisé. Nous savions tous que pour chaque concours, pour chaque activité en relation avec l'administration, on payait de l'argent. Et sûrement, cet argent était utilisé pour des achats de matériel dans les services. Mais étant donné que cet argent de service n'était pas géré selon une loi particulière, on ne peut pas aujourd'hui affirmer où allait cet argent. C'est depuis le Conseil des ministres que nous savons que l'État a pris des règlements pour gérer officiellement cet argent-là.
Voilà, c'était donc Dr Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire, une association d'éducation à la citoyenneté. Direction l'ouest du pays, le conseil d'administration de la MUGFC, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État de Côte d'Ivoire, a échangé avec les mutualistes de San Pedro le mercredi 17 avril dernier. Objectif de cette rencontre, porter à la connaissance de tous les mutualistes le mécanisme de fonctionnement et les innovations pour une amélioration des conditions de vie des membres. Des détails avec vous, Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
La MUGFC, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État des Côtes d'Ivoire, avec pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie à travers une prise en charge des risques sociaux, entend jouer son rôle pour une efficacité des innovations sont nécessaires, selon Paul Nyobo, président du conseil d'administration de la MUGFC.
Nous sommes venus à San Pedro pour expliquer les innovations qui sont entreprises au niveau de la MUGFC. Leur dit par exemple que les actes de prestation sont gratuits, leur dit que le nombre de médicaments a augmenté, leur explique qu'il y aura des dialyseurs pour que le coût de la dialyse revienne entre 2000 et 5000 francs. Aujourd'hui, il y a le call center qui fait les 01 71 60 60 60 qui leur permet de poser leurs problèmes directement à la mutuelle et d'avoir une réponse. L'autre élément, si tu veux avoir les pharmacies, tu vas sur Google, tu tapes Saint Pedro, tu mets liste des pharmacies, on va t'indiquer les pharmacies, les hôpitaux, les médicaments. Donc, tout est à la disposition aujourd'hui du mutualiste. Donc, il lui appartient d'aller vérifier pour constater la modernisation de notre outil.
Pour l'instituteur Dier Anselme, cette initiative visant à éclairer les mutualistes est à saluer.
On était dans le noir, donc ils sont venus nous éclairer. L'arrimage entre la CEMU et la MUGFC, c'était pas clair dans notre tête. Aujourd'hui, c'est chose faite, tout a été bien décidé. On sait que désormais, il faut tout faire pour avoir les D4 pour pouvoir mieux servir.
Notons que des médecins conseils sont à la disposition des mutualistes pour davantage encadrer, orienter et expliquer les ordonnances pour une meilleure compréhension du système mis en place. Kofi Benson, Pedro, Radio de la Paix.
Merci à vous, Kofi Benson. Retour à Abidjan, le mardi 16 avril dernier, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Dr Amédé Kofi Kwaku, a effectué une visite de travail sur les chantiers de construction de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. Avec un taux d'avancement des travaux estimé à plus de 70%, cette phase est prévue pour s'achever au mois de juillet 2024. À terme, cet ouvrage permettra de fluidifier la circulation sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-VGE, constamment congestionné aux heures de pointe. Écoutons à ce propos le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier dans des propos recueillis par Mata Touré.
Ce que nous pouvons annoncer aux Ivoiriens, c'est que d'ici 3 mois, on aura donc fini. Parce qu'on a fini de construire le pont lui-même, il reste à mettre le goudron, le bitume, mettre les candélabres, c'est-à-dire l'éclairage, mettre les garde-corps, c'est tout ce qui reste à faire. Et puis, faire les aménagements routiers en bas. On sait qu'avec les travaux routiers qui se font au sol, actuellement, il y a beaucoup de gêne pour les usagers. Mais nous leur demandons de prendre un peu patience, parce que d'ici maximum 3 mois, tout sera derrière nous. Ce que nous voulons simplement dire, c'est une fois de plus, au nom du gouvernement ivoirien, de remercier le gouvernement japonais. Parce que quand on fait la somme de la première phase et de la seconde phase, c'est quand même presque 50 milliards de dons qui a été fait donc à l'État de Côte d'Ivoire à travers la réalisation de cet ouvrage. Il y a environ 200 personnes qui ont travaillé sur ce chantier, dont 80% d'Ivoiriens. Et donc ça fait, ce sont des ouvrages complexes, donc ça a permis donc à des jeunes Ivoiriens de travailler sur ces chantiers importants, donc pour permettre d'améliorer leurs connaissances.
Environnement, le conseiller du président de la République et coordonnateur de Abidjan Legacy Programme, Abou Bamba, était face aux conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels CISEC le mardi 16 avril dernier au siège de l'institution Abidjan Plateau. Il s'est prononcé sur le thème « Initiative d'Abidjan, accélérateur de développement durable et de transformation agricole ». Abou Bamba a présenté le Abidjan Legacy Programme avant de proposer la création d'une banque d'investissement agricole afin d'assurer notre sécurité alimentaire d'ici 2030. Nous l'écoutons.
Une initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Alassane Ouattara, sur une volonté de transformer la trajectoire et le développement de notre pays en nous appuyant davantage sur les ressources naturelles, en tenant compte aussi de la nécessité de la résilience de notre pays vis-à-vis des changements climatiques, d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes vivant dans les zones rurales. Notre but et notre objectif à travers la mise en œuvre d'Abidjan Legacy, c'est de susciter des champions locaux, des jeunes Ivoiriens qui performent, sont les meilleurs producteurs d'igname, les meilleurs producteurs de piment et qui gagnent correctement leur vie. De faire augmenter le SMIC agricole là, qui est à 36 000 francs CFA à plus de 70 000 francs CFA dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire. La grande majorité des pays qui nous entourent, que ce soit au Ghana, Agricultural Development Bank, au Niger, la Bagri, Banque agricole, au Sénégal, la Banque de l'agriculture, au Mali, la Banque nationale de développement agricole, tous ont un outil de financement de l'agriculture et la Côte d'Ivoire ne serait restée en marge effectivement de cette dynamique-là qui existe partout en Afrique et presque dans le monde.
Des frontières ivoiriennes, une journaliste burundaise détenue depuis 5 jours par les services de renseignement a été inculpée pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Des poursuites passibles de la prison à perpétuité ont affirmé vendredi à l'agence France Presse des sources judiciaires et sa famille. Sandra Moussa, 42 ans, a été arrêtée samedi 13 avril et conduite le lendemain dans les locaux du service national de renseignement à Bujumbura. Elle a été inculpée jeudi et transférée à la prison Pimba de Bujumbura, a indiqué à l'agence France Presse une source judiciaire sous couvert d'anonymat. L'instruction se poursuit, mais le parquet a annoncé qu'elle est poursuivie pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et pour aversion ethnique, a soutenu la même source. Notre dossier d'actualité à présent, démarré le 13 avril dernier, le 13e marché des arts du spectacle africain d'Abidjan Massa connaîtra son apothéose ce samedi 20 avril, toujours au Palais de la Culture de Trècheville. Entre spectacles, rencontres professionnelles et réseautage, les festivaliers présents à Abidjan ont eu le temps d'explorer les différentes offres de la Biennale des arts vivants. Tour d'horizon du Massa dans ce dossier d'actualité que nous présente Didier Blé.
59 pays, 300 artistes, 150 programmateurs pour un peu plus de 1000 festivaliers. Le Massa, stature africaine au départ, est maintenant devenu mondial et incontournable. Une dynamique qui fait nourrir de grands espoirs. Tony Méfé, directeur du salon de l'escale bantou à Douala, au Cameroun.
Il y a sincèrement beaucoup plus de programmateurs sur cette édition du Massa et surtout il y a un choix qui me semble pertinent, c'est-à-dire un choix sur des programmateurs qui viennent d'Amérique latine. Et ça c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est le nouveau territoire où se diffuse beaucoup plus les spectacles africains, quoi. C'est devenu de plus en plus dur en Europe. C'est bien pour nous, quoi.
Et c'est quoi la mission d'un programmateur, Tony Méfé?
C'est le lieu pour tous les opérateurs de venir, et les artistes d'ailleurs, de se rencontrer, de trouver de nouveaux partenariats, d'élargir son réseau de relations, de voir des spectacles. Pour nous qui sommes des programmateurs, de regarder ce qui est intéressant pour nos publics.
Une des innovations à partir de ce Massa 2024 est la désormais disponibilité d'un fonds de mobilité pour accompagner les artistes dans leur voyage et leur tournée, une initiative de l'Institut français de Paris et du ministère ivoirien de la Culture. 22 000 euros, soit un peu plus de 13 millions de francs CFA. Abdrahmane Kanaté, directeur général du Massa.
Le Massa, au-delà du cadre qu'il crée pour vous mettre en contact, souhaite apporter sa modeste contribution pour alléger ce coût-là et faire en sorte que nos artistes et nos professionnels puissent se déplacer aussi nombreux qu'ils le souhaitent et sur toutes les destinations qu'ils souhaitent.
Le Rwanda est le pays invité d'honneur, deux groupes présents pour deux représentations, Kanavan Maroma, un des responsables du Ballet National du Rwanda.
Nous avons été très bien accueillis, communauté locale, la communauté diaspora, les artistes. Alors pour le Ballet National, c'est une troupe qui est entretenue par le gouvernement. Yeah!
Côté spectacle pour Alexandre Bamba du groupe Akin Roots, basé en France, vivre le Massa dans son pays d'origine procure une grande émotion.
Pour parler d'Abidjan, moi c'est encore un honneur et puis une chance, une opportunité unique pour moi. Ça fait longtemps que j'attendais ça, moi en tant qu'Ivoirien, de pouvoir montrer mes compos, celles de mon projet avec ce groupe-là en Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup d'émotion là que je joue ici.
Le Massa 2024 se referme ce samedi 20 avril avec une fresque du Ballet National Ivoirien dans l'après-midi et la cérémonie de clôture en début de soirée.
Didier Blé. À présent, l'invité de la rédaction et notre invité ce midi est Dr Patrice Saraka, le secrétaire général du COGEP, le parti de Charles Blé Goudé. Avec Dr Patrice Saraka, nous parlons du cri de cœur de Charles Blé Goudé qui estime être oublié par le chef de l'État ivoirien dans le processus de réconciliation. Dr Saraka Patrice est interrogé par Constant Maillé.
Docteur Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP, le parti de Charles Blé Goudé, bonjour.
Bonjour, monsieur Constant Maillé.
Le président Blé Goudé en question a crié son ras-le-bol par rapport à la situation du gel de ses avoirs et par rapport à la réinscription de son nom sur la liste électorale. Il a même parlé de gestion de cette affaire à géométrie variable. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre pour vous au COGEP?
Charles Goudé, jusqu'à ce jour, est la seule personnalité politique pro-Gbagbo condamnée à 20 ans qui a ses avoirs gelés et qui n'est pas inscrit sur la liste électorale. Alors que, on se souvient, après la CAN, le président de la République a décidé de gracier un certain nombre de personnalités, de prendre certaines mesures d'apaisement. Charles Goudé, quant à lui, subit ce traitement particulier. Le mot qu'on puisse dire, c'est un ras-le-bol. Ce sont des interrogations parce que c'est une politique de deux poids, deux mesures. Cela est incompréhensible pour Charles Goudé. On a le sentiment qu'on veut empêcher Charles Goudé de compétir. On veut empêcher Charles Goudé de faire la politique comme il veut la faire.
Charles Blé Goudé prend ainsi l'opinion nationale et international à témoin, mais il s'adresse directement au gouvernement, au président de la République.
C'est une bonne chose que de prendre les mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Nous disons simplement qu'il faut aller jusqu'au bout. Ce sont des questions politiques qu'il faut régler politiquement pour que le pays puisse vraiment aller de l'avant. C'est le sens de l'appel du cœur de Charles Goudé. Et il souhaite simplement que le président de la République puisse entendre cette voix et qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour tourner définitivement la page de la crise post-électorale de 2010. Parce qu'on a le sentiment que le président veut tourner la page. Il tourne effectivement certaines pages et arrivé sur la page de Charles Goudé, on plie la page au lieu de la tourner. Et pourquoi cette situation?
Est-ce que dans ce sens, vous avez effectivement écrit au chef de l'État?
Avant même l'arrivée du président Charles Goudé, dans une approche républicaine, dans une approche citoyenne et dans une approche simplement africaine, nous avons adressé un courrier au chef de l'État qui est le président de tous les Ivoiriens. Pour dire que Charles Goudé arrive, il souhaiterait le rencontrer pour aborder un certain nombre de sujets. Parce que Charles Goudé est un acteur politique majeur. Donc, nous avons mené cette démarche.
Pourquoi c'est maintenant Charles Goudé réagit comme ça, de manifester son ras-le-bol?
Le ras-le-bol vient de ce qu'on en a déjà parlé. Ce n'est pas la première fois que Charles Goudé, chaque fois qu'il a la parole, dit qu'il souhaiterait que ces questions soient réglées politiquement. Sa condamnation à 20 ans, sa réinscription sur la liste électorale, le gel de ses avoirs. Charles Goudé a déjà évoqué ces questions, en fait. Et effectivement, voilà, aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Sinon, ce n'est pas maintenant que la question est abordée. Ce n'est pas maintenant que la question est évoquée.
À vous écouter, est-ce que vous avez espoir que cette situation sera réglée au plus vite pour que Charles Goudé ait la chance de compétir comme tout le monde en 2025?
Nous avons espoir que notre appel sera entendu par le chef de l'État. Nous avons espoir que ce problème va se résoudre parce qu'il n'y a pas de raison que pendant que 2025 approche, proche, alors que partout dans le monde, les générations qui sont la nôtre sont en situation de proposer à leurs différents concitoyens leur savoir-faire, leur offre pour améliorer leur quotidien. Il n'y a pas de raison qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent être privés de l'offre politique de Charles Bé Goudé et de sa génération, parce que nous sommes une génération qui a envie de proposer quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Nous voulons oser le changement et nous pensons que le changement, c'est maintenant.
Le COGEP doit compter pour 2025, mais si jamais la candidature ou bien le nom de M. Charles Bé Goudé n'était pas sur la liste électorale, est-ce que le COGEP a pensé à un plan B ?
Pour l'instant, nous ne sommes pas à penser à un plan B parce que, je viens de le dire, nous avons espoir. Nous pensons que le président de la République prendra des mesures nécessaires pour libérer l'ensemble des acteurs politiques. Lui-même le répète, le président de la République, il dit qu'il pense que le temps est venu pour qu'une nouvelle génération prenne le relais. Quoi qu'il advienne, je dis bien quoi qu'il advienne, Charles Bé Goudé, le COGEP, notre génération, se présentera face aux Ivoiriens pour leur proposer ce que nous pensons faire pour améliorer leur quotidien.
Quoi qu'il advienne, même si ce cri de cœur de Charles Bé Goudé n'est pas entendu par l'exécutif ivoirien.
Ce cri de cœur, ce ras-le-bol devrait être pris en compte. Ce cri de cœur devrait être entendu pour que la situation soit apaisée.
Docteur Patrice Saraka, secrétaire général du COGEP, merci d'avoir répondu à nos questions.
Moi qui vous remercie, M. Constant Maïlé.
Voilà, cet invité de la rédaction marque la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, ce qui en a fait l'essentiel. Initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire, le nouveau siège inauguré hier au Ghana, en présence du Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, satisfait de la collaboration des deux pays dans ce domaine. Et puis, en page internationale Burundi, une journaliste poursuivie pour atteinte à la sûreté de l'État. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Le prochain rendez-vous de l'information sur Radio de la Paix, c'est à 15h. Mais avant, nous vous invitons à suivre la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous.